Radio Okapi.
Le journal présenté par Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité sur Radio Okapi. 1400 Congolais expulsés d'Angola se trouvent à la frontière de Kamako dans des conditions extrêmement difficiles. En situation irrégulière, ils travaillaient dans des mines, une pratique interdite en Angola. 27 morts et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan de l'attaque menée ce week-end par des miliciens de la CODECO sur la chefferie de Pandourou, territoire de Mahagi, province de l'Ituri. Notre invité, c'est le coordonnateur de la protection civile de la zone de Beni au Nord Kivu, Jean-Paul Kapitola, fait un état des lieux de la situation des déplacés venus de la chefferie de Bachou. Madame, messieurs, bonsoir. Plus de 1400 Congolais expulsés d'Angola depuis le 6 mars se trouvent à la frontière de Kamako dans la province du Kasaï dans des conditions extrêmement difficiles. Le chef de programme national de l'hygiène aux frontières, Abedi, est au micro de François Kadima.
Depuis le 6 mars jusqu'à hier le 19, nous avons constaté l'augmentation des mouvements d'expulsion des compatriotes congolais qui vivent en Angola de façon irrégulière. Soit ils sont ramassés dans des mines de diamants, soit au marché. Ces derniers temps, ceux que nous accueillons, ils disent qu'ils viennent de Kalonda, de Lukapa, de Nzaji, de Fukauma et ailleurs. Ils sont expulsés de façon purement inhumaine. Ils sont déversés comme ça au point d'entrée de Kamako. Nous pouvons compter à partir du 6 jusqu'à hier, le 19, 1419, hormis les volontaires. Pourquoi nous alertons, communauté humanitaire et le gouvernement, de prendre la responsabilité pour la prise en charge de ses compatriotes?
Ici à Kinshasa, un incendie s'est déclaré ce lundi matin au rez-de-chaussée de l'immeuble Beautour dans la commune de la Gombe. Ce bâtiment abrite plusieurs maisons de commerce et quelques stations de radio et chaînes de télévision. Le récit de Junior Ika.
Le spectacle laissé par cet incendie est tout simplement désolant. Tous les appareils contenus dans le local 21, tels que des smartphones, ordinateurs et autres accessoires, sont partis en fumée au plus grand dam des propriétaires. Le feu s'est déclaré autour des 8h. Quelques minutes après le lancement du courant électrique par les agents du syndic, la structure en charge de la gestion de l'immeuble. Une des victimes s'en prend au gestionnaire de l'immeuble qu'elle accuse de ne pas prendre des mesures préventives.
Ce que les gens font aujourd'hui, c'est l'équipe dirigeante qui est là. Ils savent le travail ou pas. Nous, on a décrié pour ces existences des fils qui sont éparpillés de part et d'autre. Nous avons parlé, il faut arranger toutes les histoires ici. Jusqu'à ce jour, on n'a rien fait. Ils n'ont rien fait. Mais nous nous demandons, est-ce qu'il y a des gens qui dirigent, il y a des gens qui font le travail. Les syndics qui est là, qui est censé travailler comme il faut, ils ne le font pas.
Au micro des radios Okapi, un agent du syndic qui a requis l'anonymat rejette la faute aux occupants des locaux. Selon lui, ces derniers, pour ne pas payer certaines taxes, ne signalent pas le voltage de leurs appareils et s'arrangent de manière à se distribuer le courant électrique en y installant des raccordements frauduleux. Sur décision du syndic, l'immeuble Beautour sera privé d'électricité jusqu'à nouvel ordre.
Dans un autre chapitre en Ituri, le bilan de l'attaque de samedi dernier dans plusieurs localités de la chefferie de Pandourou passe de 14 à 27 morts. Les habitants de la zone fuient pour se mettre à l'abri des attaques menées par des miliciens de la CODECO. À Bounia, la correspondance de Jean-Claude Lokidile.
Selon un enseignant dans la zone, 11 nouveaux corps ont été retrouvés hier dimanche à Djupalangu, Kapele, Rara, Kulahaye, Aliana et Asiki. Les dépouilles ont été récupérées par des habitants après le retrait des assaillants qui ont également incendié plusieurs maisons et emporté des biens des populations. Deux autres victimes, grièvement blessées et qui avaient été acheminées dans une formation hospitalière, ont également succombé à leurs blessures. Jusqu'à ce matin, affirment nos sources, certains habitants chargés de bagages étaient en train de vider le village Djupasaga, Djupashida Lidi, Djupariza ou encore Djupalangu. Ils se dirigent vers Djupamalawi, Luga, Pamone Ape ou encore Woknyeri où certains passent la nuit sous des vérandas des maisons sans aucune assistance. D'autres font des allers-retours dans leurs villages abandonnés pour chercher des vivres dans leurs champs. Le faible nombre des FARDC dans la zone ne rassure pas de nombreux habitants dont certains préfèrent se mettre à l'abri. Nous n'avons pas encore pu avoir la réaction de l'armée. Bounia Jean-Claude Loki, Dile Radio Cap.
Une délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine est attendue à Kinshasa ce lundi pour une mission de 3 jours qui la conduira également au Nord Kivu, dans la capitale congolaise. La délégation va échanger avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo, les présidents des deux chambres du Parlement, des membres du gouvernement, le corps diplomatique et la MONUSCO. Explication de Billy Valotumba.
Dès ce soir, le groupe des ambassadeurs africains présents à Kinshasa vont s'entretenir avec le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Dans la mi-journée de mardi, la délégation du CPS accueillera en réunion les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et élargi à l'Union européenne. En début d'après-midi du mardi, une rencontre est programmée à Pullman avec la MONUSCO et les agences spécialisées du système des Nations Unies. Ce sera quelques heures avant de rencontrer les présidents du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Et c'est en fin de soirée que les délégués du CPS seront reçus en audience par le chef de l'État Félix Tshisekedi selon le programme. Dès le matin du mercredi, la délégation prendra un vol pour la ville de Goma. Sur place, le Conseil de paix et sécurité aura une réunion avec la MONUSCO élargie au FARDC et à la Force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que le mécanisme conjoint de vérification de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Toujours dans le Nord Kivu, la délégation prévoit de s'entretenir avec la société civile, une visite des camps des déplacés et une descente à la frontière RDC-Rwanda avant son retour sur Kinshasa afin de regagner Addis Abeba. Signalons que le Conseil de paix et sécurité est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits dans le continent. Il constitue donc un système de sécurité collective et d'alerte rapide visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations des conflits et des crises en Afrique.
Voilà qui nous conduit au Sud Kivu où le curé de la paroisse Sainte-Barbe de Lulingu dans le territoire de Chabunda veut regagner sa paroisse étant donné que les conditions sécuritaires se sont nettement améliorées. C'est depuis 8 ans en effet qu'il a été contraint de fuir les attaques d'hommes armés. L'abbé Ghislain Mukaniwa s'est confié à Jean Kassami Baralibiru en mission dans la zone.
Nous vivons comme ça, en train de végéter. Alors que là, c'est toute une concession un peu vaste où on pouvait faire l'élevage et autre chose. Nous habitons à 2 kilomètres de la paroisse mère. Chaque dimanche, on fait un voyage avec tous les chrétiens, on fait un pèlerinage. Comme aujourd'hui, nous venons de la messe. Mais pendant la semaine, nous avons une petite chapelle à côté. C'est là où nous célébrons les messes matinales. L'église est un signe d'espoir. Notre déplacement, ça décourage plus d'un. Alors que les gens devaient élargir, prendre les parcelles de l'autre côté là. Mais comme ils ont vu que les prêtres ne vivaient plus là-bas, ils nous ont suivis ici au milieu de la cité de Lulingu. Et avoir les bâtiments là abandonnés, ça fait regretter.
Maintenant que la sécurité semble se rétablir, et vous comptez rejoindre votre concession paroissiale?
Oui, mais il y a des conditions, entre autres la réhabilitation, parce que les effets de la guerre, on continue à les subir même maintenant.
On en vient maintenant à l'actualité sur la santé. Lancement ce lundi en Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental, de la vaccination contre la fièvre jaune. Le chef de division provinciale de la santé publique affirme que depuis le début de l'année, 2 cas ont été confirmés par l'INRB. Le docteur Bonheur Tshiteku explique que cette maladie se manifeste par des maux de tête et de dos, les douleurs gastriques, les vomissements, la rougeur du visage, les yeux enflammés, foncé, mais aussi les difficultés d'uriner. Il a été joint par Esterne Dalafina.
La stratégie fixe, comme nous l'avions dit, c'est une campagne qui demande plus la logistique et donc les vaccinateurs ne seront pas passés par ménage, mais ils vont s'installer au niveau des centres de santé qui sont déjà ciblés par chaque zone de santé et la population doit s'y rendre pour se faire vacciner. Mais il faut signaler que nous avons des difficultés du côté carte, ce qui fait que on s'est décidé de vacciner sans carte étant donné que nous n'avons pas pu réunir les moyens pour payer ces cartes. C'est une campagne qui devrait commencer depuis le 8 ou le 9 mars, mais on s'est rendu compte que tous nos partenaires techniques et financiers, nous avions contacté des gens à gauche à droite pour avoir des moyens afin de les produire les cartes. Finalement, on a eu des décisions que cela soit fait au niveau des Kananga par UNICEF, mais malheureusement, les fonds nous ont fait défaut. Donc, il faut dire que cette vaccination, nous l'avions scellée en deux poules, étant donné que les zones de santé ont connu d'autres activités.
Au Nord Kivu, trois enfants sont morts de rougeole sur 806 cas confirmés dans la zone de santé d'Oïdja depuis le 6 février dernier. Cette maladie a sensiblement baissé comparativement à la période qui a précédé la campagne de vaccination, comme nous l'explique Beni Guylaine Kassassia.
D'après Kakule Chusa Archip, infirmier superviseur chargé des activités préventives et surveillance épidémiologique dans cette zone de santé, ces statistiques témoignent une diminution des cas depuis le début des vaccinations au regard du nombre des cas enregistrés entre décembre 2022 et janvier dernier. Durant cette période, on pouvait atteindre 800 cas en deux semaines, indique Kakule Chusa.
Pendant et après la campagne, c'est-à-dire du 6 au 10 février, jusqu'à aujourd'hui, nous venons de notifier 806 cas avec 3 cas de décès. Nous sommes en train de constater que maintenant, les cas qui se présentent, ça ne vient pas avec beaucoup de force comme avant.
Depuis le début de la maladie, à partir du mois de septembre 2022, nous venons de notifier 2032 cas avec 16 cas de décès.
Cependant, ces activités de vaccination n'ont toujours pas été organisées dans le groupement Banane de Kainama à cause du manque de moyens logistiques. La zone de santé de Oïcha dit avoir fait une demande à la MONUSCO pour se faire afin de sauver la vie des enfants de la zone sous épidémie. Beni Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
Dans la province du Nord-Ubangi, l'hôpital général de Mobayimbongo, qui avait été construit depuis l'époque coloniale, se dégrade. L'hôpital est envahi en ce moment de partout par de la brousse. Sans partenaire, l'institution n'a pas de dotation, moins encore de frais de fonctionnement. Il n'y a pas non plus d'eau potable sur les sites. Bref, l'hôpital général de Mobayimbongo manque de tout. Explication de Daniel Dambizoni qui revient de là.
Déjà, la voie d'accès à l'hôpital de Mobayimbongo est très dégradée. Même les voitures 4x4, les motos et les piétons y accèdent avec beaucoup de peine. La toiture vieille depuis sa construction cède à l'usure et suinte à plusieurs endroits. Un vent violent avait arraché depuis quelques années toute la toiture du pavillon de la chirurgie. Seul Dieu sait quand elle sera remise en place, nous a dit le médecin chef de zone de santé que nous avons rencontré sur place. Le bloc opératoire n'existe que de nom. De même, la salle d'accouchement à la maternité. Les pavillons pour hospitalisation n'ont pas de matelas, seulement des vieux grabats sur lesquels les malades qui le peuvent apportent leur propre matelas. Ceux qui ne le peuvent pas placent des nattes sur les vieux grabats ou à même le sol. Presque pas de produits dans la pharmacie. Les patients doivent se les acheter ailleurs. Répertoriés pour être réhabilités avec d'autres infrastructures de santé dans la région, l'équipe de mise en œuvre du PDL 145 territoire n'a curieusement retenu que deux centres de santé au détriment de l'hôpital général de référence, regrette Dr Ben Kotimo, médecin chef de zone de santé de Mobayimbongo.
Actualité internationale.
Au Mali, le chef de la junte, Assimi Goïta, doit présenter aujourd'hui le projet de constitution aux forces vives de la nation. Ce document divise déjà les acteurs politiques du pays. Le référendum qui devait avoir lieu le 19 mars a été reporté sine die. Aucune date n'a été fixée jusqu'ici. Le gouvernement affirme qu'il annoncera une nouvelle date après consultation des responsables électoraux et les dirigeants politiques et religieux. Le président chinois entame ce lundi son premier voyage en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine par ce pays l'année dernière. Xi Jinping s'apprête déjà à s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine. Et puis la CPI a fait du président Vladimir Poutine un homme recherché. Le tribunal pénal international l'accuse d'être responsable de crimes de guerre et a axé ses demandes sur la déportation illégale d'enfants d'Ukraine vers la Russie. Il affirme que les crimes ont été commis en Ukraine à partir du 24 février 2022 au début de la guerre. Dans une déclaration, la CPI confirme avoir des motifs raisonnables de croire que Vladimir Poutine a commis les actes criminels directement ou en collaboration avec d'autres personnes.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur de la protection civile de Beni au Nord Kivu, Jean-Paul Kapitula, fait un état des lieux de la situation des déplacés venus de la chefferie de Bachou. Il s'entretient avec Marc Marofimo.
Jean-Paul Kapitula, bonjour.
Bonjour Radio Kapi.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre autour de la protection civile qui a réuni les humanitaires ainsi que l'autorité urbaine?
L'autorité urbaine a appelé tout le partenaire humanitaire, la société civile, les chefs de base, les bourgmestres des communes et même le PSP, la zone de santé, les comités de déplacés aussi y inclus, pour discuter sur l'alerte qui lui a été donnée par notre service de la protection civile. C'est-à-dire, ça fait maintenant un moment de 3 jours depuis le 13 que la ville de Beni reçoit de vagues de populations qui se déplacent massivement à provenance des agglomérations de Maboya, Ngoumo, Mabuku, Mataba, Kabasha et Kazebere et les autres agglomérations. C'est là dû à cet activisme de l'ADF qui a traversé de la partie est vers la partie ouest de Maboya sur la partie sud de la ville de Beni en direction de la ville de Butembo. Cela fait que la quasi-totalité des populations de ces agglomérations aux cités se sont déplacées. Une majorité se retrouverait dans la ville de Beni et précisément dans les communes de Bungulu et de Béou. Raison pour laquelle le maire a jugé mieux d'amener la communauté humanitaire pour leur donner l'alerte et surtout leur partager les formations sur le travail que font les services de la mairie, y compris mon service, et la DIVAS. Il y a les gens, il y a les affaires humanitaires, il y a les autorités de base. Ensemble, qui essaye de monitorer et identifier d'une manière préliminaire les déplacés et leurs besoins et qui sont venus dans les agglomérations aux cités.
À l'étape actuelle, quelle est l'estimation que vous avez des déplacés, soit des ménages ou des familles qui sont déjà dans la ville de Beni ou ailleurs?
Avec les grandes agglomérations comme Mataba, Kabasha, Maboya, Mabuku, nous avons estimé à 50 000 personnes qui se sont déplacées dans la ville, mais au moins les identifications continuent avec les autorités de base et d'une manière claire, on saura parce que les vagues continuent. Jusqu'à ce matin, il y a toujours des gens qui se déplacent. Et que, avec cette réunion de sécurité élargie à la communauté humanitaire, nous avons l'espoir, avec tout ce que les humanitaires venaient de partager avec nous, une fois la mairie va produire un rapport rapide, cela va occasionner à ce qu'il y ait une alerte qui est déjà notifiée et que, si possible, les partenaires qui ont des positionnements puissent voir comment venir au secours des déplacés. On ne saura pas dire qu'est-ce qui est fait, mais qu'est-ce qui est fait, c'est d'abord nous mettre ensemble et voir comment regarder dans les mêmes objectifs pour que nous puissions vraiment bien faire ce travail de venir au secours des personnes à besoin, surtout ces déplacés qui sont en difficulté pendant ce moment. Après la réunion, j'ai discuté avec le chef des quartiers, on a discuté avec la société civile, on a discuté avec le président de CPD et de CLPD des communes. Et ensemble, on s'est mis d'accord que nous devons avoir le même langage sur le terrain. Nous sommes ici pour aussi voir le responsable des affaires humanitaires et les comités des déplacés pour que personne ne se retrache de la disposition prise par le maire. Et là, c'est dû à cette disposition qui est inclue même dans les plans locaux de développement de la ville de Beni. Donc, le même langage est déjà au rendez-vous avec les go-ahead de l'autorité de la ville qui lui-même s'implique activement et a mobilisé même, non seulement les chefs de base, mais aussi les bourgmestres des communes et les services.
La population a déjà commencé à manifester son hospitalité pour se déplacer à votre niveau. Quel est votre message particulier pour cette dernière?
C'est toujours que cette population qui a toujours accueilli des déplacés et a toujours été généreuse de continuer à les faire, mais important c'est de notifier l'arrivée des déplacés auprès des chefs de base. Vous savez, pendant le déplacement, il y a tout ce qui est possible. L'ennemi peut aussi se déplacer avec les populations. Alors nous devons avoir la vigilance au rendez-vous. Et à ce moment ici où malheureusement les familles d'accueil sont aussi à peine rues, nous avons l'alerte que nous lançons aussi auprès des autorités nationales, provinciales, pour que par un moment que la ville traverse vraiment une pénurie et avec des difficultés d'accès à nos ressources champêtres, si le gouvernement s'apprête à voir comment venir soulager tant soit peu les souffrances de ces populations, mais au rendez-vous c'est la paix et la sécurité qui est souhaitée pour que ces populations rentrent dans leurs entités respectives.
Déjà pour Capitula, nous vous disons merci.
C'est moi qui remercie la Radio Capi.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur de la protection civile de Beni au Nord Kivu, Jean-Paul Kapitula, faisait le point de la situation des déplacés venus de la chefferie de Bachou. Il a été interviewé à Beni par Marc Marofimbo. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté.